Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu Chiara.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous pour ce nouveau jeudi de la bande dessinée, le premier de l'année. Mathieu, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels deux bandes dessinées publiées aux éditions de La Grume, Hors-jeu, publié en 2016, et L'homme gêné, qui est apparu il y a quelques mois. Bande dessinée avec laquelle, pour laquelle vous avez remporté le Fauve Révélation au Festival d'Angoulême en tout début d'année. Bravo.
Merci.
Alors, on va évidemment parler longuement de ce livre qui met en scène Vincent, cet homme gêné qui aimerait tant, ne pas tant l'être gêné. Mais avant cela, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps. On a l'habitude, dans les jeudis de la bande dessinée, d'interroger les tout débuts des autrices et des auteurs qu'on reçoit. Alors, je ne vais pas vous demander de nous lister toutes les bandes dessinées que vous avez aimées enfant, puis adolescent, mais peut-être vous pourriez nous parler de cette page en particulier, de cette histoire de Boulébile qui, je crois, vous a fait percevoir, sentir, parce que j'imagine que vous ne l'intellectualisiez pas à l'époque, qui vous a fait sentir la puissance de la bande dessinée.
Ah oui, bah alors oui, c'est vrai que je pense que je m'en souvenais plus trop. Et puis ouais, en repréparant en fait une intervention, je devais parler un peu de mon travail. Ça m'est revenu en tête, effectivement. Donc c'est une planche, je ne sais pas, il y a peut-être le mot pitre dedans, en titre, je ne sais plus exactement. Difficile même à retrouver ouais, sur Internet. Bon, enfin, c'était un peu en super qualité. En gros, il y a donc voilà, Bill, le chien de Boule. Bon, tout le monde connaît, ça va. Du coup, Boule reproche ouais, à Bill d'être tout le temps pas sérieux. Et donc il se balade dans la rue, Boule continue à avancer, et puis du coup on a Bill qui commence à se remettre un petit peu en question, et en fait ça va être dans le vocabulaire graphique que finalement il va essayer de devenir sérieux, donc avec un dessin qui devient très réaliste. Donc on voit ce beau cocker comme ça, très réaliste, et ça crée donc une sensation un petit peu étrange. Je trouvais ça voilà, super, super malin en même temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans, il n'est pas en train de raconter comme ça lourdement ou dans l'attitude ou ce que pourrait voilà, penser, dire Bill. On est vraiment sur le jeu de dessin comme ça. Il y a cette espèce de magie narrative ouais, qui m'avait beaucoup plu. Et après, il redevient, donc même Boule ne le reconnaît plus. Et ensuite, il va redevenir lui-même ouais, finalement.
Et à ce moment-là, à cette époque-là, quand vous lisiez Boulébile, je crois que vous aimiez aussi Gaston, le Marsupilami, Spirou. Est-ce que vous dessiniez déjà ? Parce que pour avoir ce petit choc, en tout cas pour se dire « Oh, il y a quelque chose qui se passe », il faut déjà être attentif à ça, être attentif au dessin.
Ouais, après, bah là, disons que je peux en faire une lecture plus précise aujourd'hui avec une pratique quand même plus aboutie, des questionnements de dessin qui ont quand même qui se sont précisés. À l'époque, c'est bah, enfin, comme toute situation quand on est enfant, un petit peu étrange, qui nous échappe un peu. Il y a d'abord une sensation un peu voilà, d'étrangeté, je pense. Mais oui, je dessinais déjà depuis petit, donc effectivement, je refaisais aussi les personnages, même bah, bah, comme le coup classique un peu en cours. Enfin, je sais pas si vous dessinez un petit peu, mais en tout cas, voilà, souvent il y a ce truc-là un peu où on est en cours, et puis du coup, il y a les copains, ça fait un peu une compétence un peu en plus qui est sympa comme ça. Il y a des petits jeux, tiens, tu peux dessiner ça, machin.
Et est-ce que vous inventiez déjà des histoires ou est-ce que c'était uniquement le dessin ? Est-ce que vous aviez déjà en tête de raconter de faire des scénettes, de raconter quelque chose et de ne pas être uniquement dans l'image et la reproduction d'un dessin ?
Bah non, ouais, c'était plutôt un peu, ouais, un peu idiot comme ça. Juste, enfin bon, après, c'est le plaisir de dessiner. Mais effectivement, il n'y avait pas encore ouais, de question de narration. Et ça, je pense que c'est aussi parce que bon, je lisais pas mal de bandes dessinées, mais finalement, après, je suis devenu plutôt lecteur de littérature plus vieux, mais avec une grosse période de rien du tout. En fait, c'est plus ma sœur, après, qui m'a transmis ce goût pour la lecture. Donc, je pense que c'est là-dedans, après, où la question plus de la narration est arrivée, ouais.
Je fais un saut dans le temps. Vous êtes diplômé des arts déco de Strasbourg. Qu'est-ce qui vous y a amené, puisque vous nous disiez qu'il y avait une période durant laquelle peut-être vous lisiez moins, en tout cas de bande dessinée. Est-ce que vous aviez malgré tout continué à avoir une pratique du dessin? Qu'est-ce qui vous a mené aux arts déco de Strasbourg? Et qu'est-ce que vous y avez appris? Alors j'imagine énormément de choses, mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous vous dites, vous a été le plus précieux dans cet apprentissage-là?
Ouais, alors bah, c'est marrant parce qu'en fait, donc j'ai continué à dessiner effectivement pour moi, comme ça, un petit peu tout le temps, jusqu'à un moment où, en fait, bon, après le bac, j'ai commencé à faire un peu autre chose, et puis petit à petit, alors avec l'idée que j'aurais aimé en fait faire du dessin, mais bon, j'avais suivi un cursus classique, et je me suis dit, bon, je continue sur autre chose plus classique. Et petit à petit, dans cette idée de, je sais pas, je me suis mis un peu à accepter un peu ce truc-là, que je ferais pas forcément du dessin, enfin en tout cas professionnellement. Et il est arrivé un truc assez dramatique, bon, toute proportion gardée, mais en fait, j'ai commencé à ne plus dessiner. Et donc ça, c'est assez, enfin, je sais pas, du coup, sur le côté passion, on se dit toujours que c'est en nous et que ça peut pas s'éteindre. Et en fait, si, c'est possible quand même. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience. Et après ça, bah, je suis arrivé un petit peu au bout où je me suis dit, bon, en fait, non, quand même, ce que je veux faire, c'est quand même du dessin. Et en fait, alors, je me suis réinscrit, j'ai fait une prépa à Paris dans le but de me dire, bon, bah, on va m'obliger aussi à bien m'y remettre. Je ne sais pas ce que je suis encore capable de faire. Est-ce que ça va me plaire? Donc, dans l'idée d'en faire beaucoup. Et là, j'ai commencé en fait à faire un peu de découvrir aussi d'autres choses, plus de la peinture. Donc, à me poser aussi la question, tiens, peut-être qu'en fait, ce serait être peintre qui me plairait. Après, bon, le choix des écoles. Et il y avait notamment dans celle-là la possibilité de toucher un petit peu à pas mal de choses, et notamment une section illustration aussi qui était intéressante. Donc j'ai fait tout ça et c'est au moment où j'ai pu retoucher un petit peu. Donc j'ai fait un moment à cette époque-là, on pouvait faire, il y avait un moment en peut-être deuxième, troisième année où on faisait un semestre d'un truc et un semestre d'un autre. Donc j'ai fait un semestre art où j'ai fait plutôt peinture, sculpture et puis un semestre illustration. Et là j'ai retrouvé pour le coup les sensations que j'avais plus jeune quand j'ai dessiné pour moi, tout ça. Voilà.
Et justement, c'est ça l'élément principal quand je disais qu'est-ce que vous gardez de ces années-là, c'est la reconnexion au dessin, ou est-ce que ça va au-delà et est-ce qu'il y a quelque chose justement dans la pratique, parce qu'on va arriver rapidement à l'homme gêné, mais ça nous permettra de réévoquer les livres que vous avez publiés entre-temps, mais malgré tout, c'est pas uniquement le dessin, c'est le dessin narratif, que ce soit une seule image mais qui raconte toute une scène, ou bien l'idée d'histoire courte ou de récit plus long, mais est-ce que c'est à ce moment-là, au moment des arts déco, que vous avez à la fois connecté avec le dessin et connecté avec la bande dessinée?
Ouais, complètement. Alors oui, effectivement, oui, j'avais pas répondu jusqu'au bout, mais c'est vrai que la spécificité qu'il y avait aux arts déco, c'était de nous former comme auteurs. Donc, c'est-à-dire arriver à faire en sorte qu'on développe une démarche personnelle au détriment peut-être d'un côté technique. Mais bon, globalement, je crois que dans les écoles aujourd'hui, il y a quand même moins le côté technique qui est mis en avant. Bref, et donc il y avait ce truc là qui était important, un prof, voilà, Guillaume Dégé, qui évidemment auteur illustrateur et qui est passionné de livres, donc il nous rapportait aussi beaucoup de livres et beaucoup de culture ancienne aussi autour de la gravure, etc. Il y a aussi dans cette école des ateliers, voilà, de gravure, de sérigraphie, bon, dans lesquels je suis pas tellement allé, mais après j'ai aussi fait un stage à l'étranger où j'ai commencé aussi à faire de la gravure. Donc en fait, ce qui s'est développé, plus les rencontres évidemment avec les autres étudiants aussi, ce qui s'est développé là, ouais, c'est en gros une question entre l'image et la narration, c'est-à-dire des images des fois isolées, qui ont un potentiel narratif mais un petit peu plus flou, jusqu'à le langage de la bande dessinée qui permet vraiment une narration beaucoup plus avec beaucoup plus de variété. Comme ça, on est vraiment, ouais, plus axé sur l'axe narratif.
vous parliez des échanges avec les autres étudiantes et étudiants. Montrer son travail à des professionnels, ce n'est pas toujours évident. Je ne parle évidemment pas des professionnels qui interviennent dans le cadre des études, mais de commencer à montrer des choses en dehors justement des études. En 2013, vous avez obtenu le 3e prix du concours Jeunes Talents au Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. Est-ce que ça a été pour vous l'occasion à ce moment-là de commencer à montrer des choses à des éditeurs, ou bien peut-être que vous l'aviez déjà fait? Comment est-ce que se sont passés vos premiers pas en tant que professionnel? Finalement, est-ce que vous vous souvenez, je fais encore 10 questions en une, mais du premier dessin publié ou du premier dessin payé, c'est-à-dire ce moment où vous vous êtes peut-être dit « Ah, mais en fait, je peux, au-delà de ce goût que j'ai pour le dessin, de ce goût que je commence à développer pour la narration, peut-être que je peux vraiment en faire quelque chose professionnellement ?»
C'était assez lent en fait. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai eu la chance dans mon jury de diplôme d'avoir notamment Guillaume Dumora qui dirige la librairie du Mont en l'air et qui, donc le Mont en l'air qui a aussi une activité éditoriale. Donc j'avais un projet qu'on avait fait. Alors pour le coup, ça mélange un peu tout. Il y avait un projet qu'on avait fait, une initiative entre étudiants de faire une exposition sur les faits divers. Et à partir de là, du coup, j'avais présenté voilà, quelques planches et j'avais rappelé après mon diplôme Guillaume Dumora pour lui demander s'il pensait à un éditeur qui pouvait être convaincu par ce projet.
Mais moi,
il m'a dit moi, exactement. Donc, je fais bon, ok, bah, très bien. Et donc là, c'était
le premier.
Et ça s'appelle
Dessins variés, effets
ouais,
divers.
Exactement.
En 2015.
Ouais, c'est ça. Et avant, après, j'avais publié peut-être des petits trucs de bande dessinée. Il y a les trucs de fanzines, ce qui se faisait pas mal aussi. Donc là, on commence à publier quelque chose. Ce qui a permis après, j'avais proposé aussi à la revue Strapazine une petite histoire aussi muette. Et puis après, effectivement, il y a le prix Jeune Talent, troisième prix Jeune Talent. Suite à ça, du coup, c'est l'éditeur Lagrume qui a une revue qui s'appelait, une revue thématique qui s'appelait Citrus. Et donc, qui a fait 5-6 numéros. Le premier numéro.
Qui était très bien.
Oui, qui était très bien. Et pour le premier numéro, du coup, qui était sur le foot, ils m'ont proposé de faire une histoire. Et là, ça leur a plu. Ils m'ont proposé quelques pages en plus là-dedans, déjà, de rallonger un peu. Et suite à ça, en fait, ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu penses qu'on peut en faire un livre plus long comme ça? Je fais oui. Allons-y, sans savoir trop ce qui allait se passer, mais ouais.
Et donc, ça a donné Hors-jeu,
Hors-jeu,
qui est sorti, je le disais, en 2016 aux éditions Lagrume, et donc L'homme gêné en 2023.
Beaucoup plus tard, ouais.
Beaucoup plus tard. L'histoire de Vincent, je le disais, une histoire composée de strips, des scénettes de quelques cases, et le premier strip de ce livre... puisque c'est un livre, encore une fois, je le dis, composé de strips, d'une succession de courtes histoires, des scènes de vie qui, au final, mises bout à bout, permettent de raconter ce personnage qu'est Vincent. Bref, premier strip, 4 cases, Vincent arrose une plante, ouvre la porte d'entrée de son appartement qui est juste à côté de la plante, il n'y a personne, il soupire. Pff, je le fais très bien. Ce premier strip, il est sur un fond bleu. Il y en a quelques-uns comme ça, des strips sur fond bleu ou jaune dans le livre. Et je vous entendais dire dans un entretien à la radio, je crois, que tout était parti de là, de quelques strips comme ça, plutôt poétiques, de ce personnage dans son appartement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que de ces quelques strips est venue l'envie de développer une histoire, de raconter qui est Vincent, puisque on est, et là je parlais du tout premier, mais dans les premières pages, on est vraiment avec lui, dans son appartement, dans des scènes de vie, on vous reconnaît complètement, en tout cas, il y a cette dimension absurde qu'on vous connaît. On va évidemment évoquer aussi le fait que vous allez bien plus loin et que c'est aussi certainement justement pour ne pas être enfermé dans quelque chose, ou en tout cas de ne pas se dire « Ah oui, Mathieu Chiara, c'est de l'absurde ». Mais voilà, comment est-ce que à partir de ces premiers strips, vous avez eu l'intuition que vous pouviez, que vous deviez aller plus loin ?
Pour le coup, alors, c'est l'envie qui était d'abord là et qui m'a poussé à commencer quelque chose. Et donc, ces strips-là, donc, qui sont c'est les feuilles colorées qui sont comme des espèces de titres de chapitres, mais voilà, c'est en mots, c'est en le vocabulaire de la bande dessinée, donc en strip, mais qui sont en dehors de la réalité. Et en fait, j'ai commencé aussi ouais, à la fois par ces strips-là, donc un peu onirique comme ça, où il se passe un truc un peu bizarre. Et aussi, en fait, une petite scène quand le personnage est enfant, où il raconte quelque chose aussi. Donc, on est aussi dans une espèce d'histoire un peu rêvée. Donc, c'est marrant, c'est parti plutôt de choses qui ne sont pas tellement contrôlées comme ça, un petit peu en essayant des choses comme ça. Après, disons que c'est une espèce d'idée globale de travailler sur un format déjà un petit peu plus long avec trois âges d'un personnage aussi. C'est les premières grandes idées. Et puis de partir, de toutes les façons, je savais que j'allais pas commencer dans l'ordre chronologique, donc de partir du personnage à l'âge adulte. Et puis ensuite, en commençant en fait à me dire, tiens, qu'est-ce qui m'amuse aussi moi ? Et finalement, c'est un petit peu dans cette intimité du personnage, des petites choses banales, du détail qu'on regarde pas vraiment d'habitude, mais sur lesquelles justement j'essaie d'exagérer un petit peu des choses et puis d'attirer l'attention, ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que je le disais, c'est finalement l'accumulation de ces scènes qui racontent évidemment quelque chose de beaucoup plus grand que les scènes prises individuellement. Mais est-ce que quelque part, il y a quelque chose de rassurant quand on se lance dans l'idée de se dire « je vais raconter scène par scène et je verrai justement sur cette question d'assemblage qui n'oblige pas peut-être dès le début à avoir une narration qu'on devrait verrouiller un petit peu plus dès le début si on se lançait dans une écriture plus classique d'histoire au long cours, de récits au long cours. Alors moi, ce que je trouve super, c'est que finalement, on retrouve ce que vous avez fait par le passé et que finalement, vous racontez quelque chose de plus humble. Donc, c'est comme si c'était petit à petit, pas à pas, vers justement ces récits, encore une fois, plus amples. Mais est-ce que ça a quelque chose de rassurant de se dire, mais en fait, je vais prendre une scène après l'autre et on verra comment est-ce que tout ça va s'imbriquer. J'ai le sentiment que ça laisse une marge de manœuvre qui peut être rassurante.
Oui, oui, du coup, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais du coup, il y a ce fonctionnement en strip. Et puis, souvent, disons, on va dire, comme une espèce de petit gag, on pourrait dire, en une page. Voilà, donc ça fait des espèces de modules en une page qui, effectivement, sont rassurants dans le sens où on peut en mettre d'autres, en empiler d'autres. En même temps, ça donne de la profondeur au personnage, on apprend à le connaître avec ce mécanisme-là. Et on peut aussi retirer des choses, intervertir.
Sans que ça déséquilibre totalement l'histoire.
Ouais. Et après, effectivement, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qui sont pensées comme des modules plus amples, où là, par contre, il faut venir réintervenir. Bon, il faut que... Ouais, c'est une fois que c'est déjà un petit peu plus précis dans la tête. Ouais.
Mais justement, je disais qu'il y avait l'idée qu'on n'était pas forcément obligé d'avoir son récit très déterminé dès le début. Mais je vous entendais dire aussi que typiquement, l'idée d'écrire un scénario, de faire un découpage, d'ensuite ancrer les planches, c'était quelque chose qui, cette idée-là, ne vous plaisait pas du tout. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement comment est-ce que vous avez écrit cette histoire ? Comment est-ce qu'elle a évolué ? Je sais qu'à un moment donné, vous avez dessiné toute une séquence d'une trentaine de pages que finalement vous avez jetée parce que ça ne correspondait pas à l'endroit où vous vouliez amener l'histoire. Donc comment est-ce que finalement, à partir de ce que vous nous disiez, l'idée d'avoir ces trois âges de la vie, d'avoir ce personnage dans son appartement. Donc on a Vincent, et effectivement au tout début, on le voit pas faire grand-chose avec justement ces scénettes qui font sourire, qui nous font avoir de la tendresse pour ce personnage. Et puis il y a une voisine qui aménage, Julia. Il tombe très rapidement amoureux d'elle. Elle va lui proposer de venir en vacances, enfin en quelques jours, chez sa cousine Brigitte. Donc là, on va changer de lieu. Il va y avoir, vous l'avez évoqué aussi un petit peu, des flashbacks. Comment est-ce que, à partir de là où on vous a laissé de l'idée de départ de ces trois âges, vous avez petit à petit déroulé le récit ? Et est-ce que vous avez à un moment donné, peut-être, été surpris de la direction, de là où ça vous a mené ?
Eh ben, comment c'est ouais, vraiment, alors en faisant et en fait, alors oui, j'ai pas envie de effectivement de de faire tout un storyboard, de crayonner ou de commencer juste tout à l'écrit comme ça, toute une histoire. En fait, de toute façon, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que si je le fais vraiment, il y a un moment où je vais aller trop loin. Et quelque chose qui fonctionnerait peut-être uniquement à l'écrit, mais dès qu'il s'agit ensuite de le transformer, de l'adapter pour faire de la bande dessinée, il y a un moment où, voilà, où ça déraille, ça ne fonctionne plus. Et en fait, bon, tant mieux, parce que c'est vrai que ce qui me plaît, moi, c'est un peu comme... pardon. C'est un petit peu comme vivre une vie aussi, quoi, disons, de fabriquer une histoire comme ça. Donc j'ai besoin aussi de découvrir les choses petit à petit. Il y a un petit peu d'anticipation sur ce qui va se passer, mais pas tellement plus. Et en fait, après, c'est une espèce de concentration voilà, assez appuyée pour essayer de sentir ce que j'ai l'impression de vouloir qui arrive, quoi. Tiens, bah, à propos de phrases pas très françaises. Voilà, c'est essayer de vraiment bien rester concentré. Et donc, il y a un moment où, pour le coup, j'ai eu un peu trop de temps devant moi. J'ai commencé à me lancer, voilà, un moment un peu charnière dans l'histoire. Donc, avec, en fait, d'autres personnages qui sont pas là du tout. Et ça partait vraiment sur autre chose où je me suis dit non, là, ça manque d'intensité. Enfin, c'est pas ça. Mais bon, de l'avoir fait, ça m'a permis de le constater aussi. Et donc de l'évacuer et de pouvoir me recentrer. Voilà. Mais c'est une espèce de, ouais, de concentration, d'essayer de suivre un petit peu l'instinct, quoi, disons. Voilà. Et c'est ça qui est aussi agréable parce que je pense que justement, c'est très humain, en fait, d'être entre. Des jeux de contrôle par l'analyse un peu cérébrale et puis aussi ce mélange avec une attention plus spontanée en fait à ce qui pourrait survenir. Ouais.
Et on va parler à nouveau de ce qui se passe dans la vie de Vincent, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste un instant pour parler du cadre, de la façon dont vous mettez en scène ces moments de vie. On découvre les lieux et les personnages comme si on les observait depuis le plafond, peut-être un petit peu moins haut sur le mur, mais en tout cas, on a une vue en plongée. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette distance? Qu'est-ce que ça vous permettait? Et comment est-ce que vous... Je vais d'abord laisser cette question. Je fais des efforts pour ne pas...
Eh bien, alors bon, bah, c'est quelque chose qui était déjà présent. C'est vrai que ça permet beaucoup de choses, en fait. D'abord, bon, d'un point de vue aussi pratique, hein, dans la visualisation de l'espace, ça permet d'avoir un point de vue comme ça assez global sur l'espace, de voir toutes les choses qui organisent l'espace aussi, les meubles, etc. Donc d'intégrer très facilement l'espace, hein, pour le lecteur, pour mon plaisir aussi à moi. Et puis, du coup, de bien voir aussi déambuler les personnages dans cet espace, un peu ce côté pratique. Ensuite, on va avoir des personnages plutôt petits, ce qui va me permettre de travailler un petit peu plus sur ce que racontent aussi les postures, simplifier en fait tout ce qui est de l'ordre de l'expression du visage ou alors justement avec des codes, voilà, très bande dessinée, mais ne pas finalement raconter trop de choses dans le visage qui attire peut-être un petit peu trop l'attention et d'essayer de trouver après avec les moyens du texte et puis des mouvements du corps en fait de raconter un petit peu autrement les comportements. Après effectivement ce point de vue donc, que j'avais déjà utilisé là, il a vraiment son sens parce qu'on est il permet de donner cette impression d'observer les personnages évoluer comme ça à leur insu et notamment ce personnage, voilà, qui est vraiment dans son, voilà, qui évolue dans son intimité avec ses maladresses, etc. Donc ouais, pour cet effet narratif là.
Et ça appuie le côté clos, c'est-à-dire qu'il est dans son appartement, mais nous aussi, de notre point de vue, on ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on voit si on est planté quelque part et qu'on est par exemple dans la chambre et qu'on observe le lit, on ne va pas pouvoir se déplacer un petit peu sur nous-mêmes pour justement élargir le champ ou zoomer, et ça donne quelque chose d'extrêmement, dans l'expérience de lecture, perturbant aussi parfois, où on a presque envie de bouger un peu les cases, et en même temps, quelque chose de très beau dans le motif répété, c'est-à-dire que même une fois qu'on a lu, si on refeuillette le livre, il y a ce côté avec les décors qui bougent un tout petit peu, et au début, on fait attention au personnage. Et puis, parfois, on voit qu'il y a des petits éléments dans le décor qui bougent. Il y a vraiment, j'ai le sentiment, une dimension de jeu aussi là-dedans, beaucoup de jeu avec les décors. Est-ce qu'on y glisse et comment est-ce qu'on dit aux lectrices et aux lecteurs, vous n'allez pas pouvoir bouger et je vais jouer avec ce que je vous montre.
Ouais, bah après, oui, c'est ça. Du coup, peu de mobilier, quoi, même, mais effectivement, ça va permettre de recentrer l'attention. S'il y a un petit élément ouais, qui bouge, ça va donner une importance supplémentaire. Il y a ce côté figé aussi de tout ce qui est pas vivant, en contraste aussi avec les personnages donc, sur lesquels on va attirer un petit peu plus l'attention. En général, bon, je fais mes décors et si justement il me manque quelque chose dans ce champ de vision, je vais rajouter un élément de décor pour qu'on puisse se décaler un petit peu. Mais sinon, c'est un peu comme voilà, quand on arrive au théâtre, on voit tout ce qui est présent sur la scène. Et bon, il y a des choses qui racontent une ambiance et il y a des choses qui vont être importantes aussi dans le récit, quoi.
Mais je trouve ça intéressant justement quand vous faites le parallèle avec le théâtre, parce que c'est vrai qu'on a parfois, enfin on entend parfois dire que la bande dessinée ressemble beaucoup au cinéma, ou qu'en tout cas une bande dessinée pourrait ressembler à un storyboard par exemple, alors qu'il y a quelque chose de très proche du théâtre dans ce que vous dites là de ce point fixe, ne serait-ce que aussi dans d'autres bandes dessinées qui n'ont pas cette forme-là, dans l'idée que quand on ouvre une double page, on voit instantanément toute la scène, même si la focale bouge, on a cette idée de, bah, on a toute la scène, on a tout le plateau, et c'est finalement à l'auteur, à l'autrice, de diriger le regard des lecteurs et lectrices à travers les actions, à travers les paroles, à travers les mouvements de corps. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait de très proche entre la bande dessinée et le théâtre. C'est plus une constatation, pardon.
Oui, je suis d'accord.
Et donc, il y a ce point de vue qui concerne l'essentiel des strips. Et puis, il y a des moments où il y a des gros plans, quand on est davantage dans des sensations, dans des émotions, peut-être aussi de manière encore plus forte dans le moment présent. Alors, parfois, ce sont des visages, des corps, mais aussi des paysages. Et j'entendais dire que c'était le point de vue de Vincent d'un seul coup dans ces moments-là. Et c'est drôle parce que moi, je ne l'avais pas forcément lu comme ça. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ce changement, justement, de focale, de l'idée de quitter ce point un peu comme ça en hauteur, de nous rapprocher des corps et, encore une fois, j'ai le sentiment des sensations, des émotions. À quel moment est-ce que ça vous est apparu que c'était la bonne façon de raconter ce moment où les personnages sont vraiment dans l'instant présent, et qu'est-ce que, en termes de narration, ça vous permettait de raconter?
Ouais, bah alors justement, est-ce que c'est le point de vue de Vincent? En fait, c'est vrai que je sais plus, une fois quelqu'un me l'a dit et en fait je me rends compte que parfois c'est peut-être le cas, mais pas
moi,
forcément.
Moi j'ai lu dans plusieurs articles.
Ouais. Et en fait des fois pour moi c'est pas clair, en fait c'est pas forcément évident et ça peut être plus. En tout cas on rentre effectivement. Alors ça donne du coup quel effet, voilà, c'est ces jeux de dessin qui m'intéressent pour leur potentiel narratif. On change de registre en fait. Avec les petits dessins, le point de vue en plongée, on est plus sur un mode un petit peu plus comédie. Et puis là, on rentre effectivement dans quelque chose qui paraît plus réel, en fait, en impliquant peut-être plus le lecteur, même dans une perspective qui paraît plus réaliste. Il y a un dessin qui peut devenir aussi un petit peu plus sensuel, disons peut-être. Donc, en tout cas, ouais, ce rapport aux sensations qui me paraît plus évident avec ce type de traitement graphique. Et aussi là-dedans, alors on ne voit pas tout à fait les visages. Des fois, on voit des visages, mais souvent des morceaux de visage ou des morceaux de corps, donc il y a un système...
Beaucoup les lèvres, les oreilles, ouais.
Système d'indices, je trouve qu'ils en disent plus que si on montrait tout d'un coup. Enfin, le visage, c'est encore quelque chose de très particulier. Enfin, je donne des cours alors, autour du personnage, et c'est vrai que c'est difficile pour les étudiants aussi de se détacher de leurs habitudes. Il y a beaucoup d'empathie, comme ça par rapport à un dessin un visage, enfin dès qu'on voilà, on se regarde, on est habitué à décrypter tout de suite quelque chose, donc casser aussi ça, montrer seulement des petites parties comme ça, je trouve que ça amène aussi un potentiel narratif comme ça qui est pas explicite mais qui en raconte un peu plus. et même qui attire un petit peu l'attention. Enfin, je pense à un moment où justement il y a un personnage qui est un petit peu, qui a perdu un petit peu le contrôle et qui on voit un bout de visage comme ça, on sent qu'elle est un petit peu plus, enfin, pour moi en tout cas ça, on sent qu'elle est un peu plus perdue. Je pense que de la voir à moitié comme ça, en fait, c'est plus efficace même que si on avait fait un plan un peu bourrin comme ça sur son visage.
Mais vous le disiez, y a des tons de comédie, et il y a effectivement quelque chose dans une certaine aussi lenteur, c'est-à-dire que quand il y a ces gros plans, ça veut dire qu'on prend le temps d'observer et que le temps s'écoule différemment dans ces moments-là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure dans l'idée de ne pas être enfermé dans un style pour lequel on vous reconnaît. Dès le départ, vous aviez ça en tête aussi, d'amener ce récit, pas uniquement explorer les terres de l'humour, de l'absurde, mais d'aller aussi vers l'idée d'une comédie dramatique, et d'avoir en tout cas cette dimension-là, et de finalement ajouter des... C'est un récit en noir et blanc, mais des couleurs à votre palette.
Oui, complètement. Hein. C'est vrai que après, il y a le piège un petit peu. Bon, enfin, après, c'est pas comme si j'étais un gros auteur à succès, mais je veux dire, il y aurait le piège, en tout cas, oui, d'être attendu sur un registre. Et là, même d'ailleurs, effectivement, il y a ça qui pousse vers ce côté comédie dramatique complètement. Je le présente un peu comme ça. Et même de revenir avec le dessin plus petit en plongée, raconter peut-être des moments aussi qui sont pas forcément drôles des fois. Et voir comment ça peut évoluer comme ça, effectivement. En plus, c'est vrai que moi j'aime bien aussi lire des trucs ou voir des films pas forcément drôles. Et puis, effectivement, même dans les premières, je pense, les premières lectures, un peu les premiers retours critiques, où les premières personnes qui m'ont parlé, peut-être m'ont dit en priorité, ah oui, c'était drôle, j'ai beaucoup ri, machin. Et puis petit à petit, quand il y a eu un petit peu plus de visibilité sur le livre, il y a eu des commentaires qui sont allés voir aussi toute l'autre partie qui est importante. Ouais.
Et il y a quelque chose aussi qui est extrêmement réussi, c'est qu'on a donc ce personnage, Vincent, qui est un homme gêné, un homme empêché, qui aimerait faire des choses, mais qui n'y arrive pas, qui a du mal à sortir de son appartement. Et je le disais, il y a des flashbacks, et à aucun moment on est dans quelque chose de psychologisant ou dans une démonstration qui viserait à expliquer « Ah, regardez ce que Vincent a vécu dans l'enfance et voyez l'adulte qu'il est devenu ». Et je trouve que c'est un fil très ténu, c'est-à-dire qu'on peut facilement justement être dans quelque chose de démonstratif ou d'un peu surplombant, et encore une fois, d'être dans ce truc psychologisant, sachant que évidemment qu'on ne sait pas, qu'on a toutes et tous vécu énormément de choses, et que ce serait très réducteur de dire « Regardez, il y a ce moment-là qui explique toute la suite de la vie de Vincent ». Comment est-ce que vous avez travaillé cet équilibre-là? Est-ce que c'était justement une chose que vous cherchiez, juste à donner des pistes, à faire comprendre qui il était, à montrer des moments importants et se dire après? Et c'est ça qui est encore une fois assez génial, c'est comment est-ce que les lectrices et les lecteurs se racontent leur histoire de qui est Vincent?
C'est ça, en fait. Alors ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, pour le coup, là, c'est vraiment complètement à l'instinct de me dire y a besoin en fait de ça, et de il faut que ce soit là, et puis il y a une autre scène, peut-être que il y en aurait une autre qui serait un peu en trop, enfin c'est vraiment pour le coup là ça va pas être très convaincant, ça va pas être une démonstration non
l'instinct.
Plus mais effectivement voilà, et donc là c'est c'est vraiment ça, en fait. À ce moment-là, il faut ça. Et c'est ça. Et après, effectivement, on peut pas. C'est un peu comme il y a des choses où c'est plus convaincant. Je sais pas. On va prendre l'exemple, par exemple, on fait de la science-fiction à la Kubrick. Bon, on peut pas expliquer 2001 de façon très claire. Enfin, en tout cas, moi, je m'y risquerais pas vraiment. Mais on sent quelque chose, quoi. On sent des pistes. Ça me plaît bien. Et après, il y a les films de science-fiction sur des trucs qui nous dépassent, en fait, qu'on peut pas de toutes les façons expliquer, mais qui essaient d'expliquer. Et ça, pour le coup, moi, c'est toujours un peu décevant. Et ça fonctionne forcément pas très bien parce que c'est pas possible en fait. Donc là aussi, dans. Bon, après, il y a évidemment. Bon, et puis, j'ai pas de compétences de psychologue, machin, mais ça me paraît plus convaincant ouais, de travailler comme ça avec des espèces de suggestions. Il se passe quelque chose, des choses qui peuvent se ressembler, s'assembler, voilà, et comment ça s'assemble, est-ce que ça fait écho chez les lecteurs aussi, voilà.
Vous dites, vous parlez d'assemblage. Comment est-ce que très concrètement vous avez assemblé ce livre? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez justement dessiné, écrit ces scènes dans l'ordre approximatif final? Est-ce que vous aviez les scènes et qu'à un moment donné vous vous êtes posé en vous disant bon alors lesquelles on retire, lesquelles crée ou casse le rythme et comment est-ce que je les assemble? Est-ce qu'il y a eu ce travail-là final, quelque part de montage, c'est-à-dire de se dire ah ben là cette scène-là elle est encore plus puissante si je la décale un petit peu, parce que à la fois je disais il peut y avoir un côté rassurant dans l'idée d'avoir des scènes courtes qu'on peut ensuite retirer ou ajouter et on peut comme ça construire l'histoire un peu au fur et à mesure, mais il y a aussi un côté c'est infini, c'est-à-dire que quand on a des scènes courtes, on peut les assembler de mille façons différentes et ça raconte la même chose à quelques nuances près. Et c'est souvent ces nuances-là qui font que ça va être réussi ou très réussi.
C'est difficile de me rappeler bien parce qu'en gros, comment ça se passe, c'est qu'il y a du dessin sur papier. J'ai fait évoluer un petit peu le truc comme il y a ce principe un peu d'itération iconique, quoi. Partiel. Je fais les décors d'un côté, puis je fais ensuite les personnages que je vais monter ensuite sur l'ordinateur. Donc, ça fait que j'ai pas vraiment de planche originale, pas un bon business plan, et à part quelques-unes quand même. Et puis en fait après, donc en fait le début par exemple, je l'ai beaucoup redéplacé, alors que c'est pas super forcément hyper important, mais quand même c'est qu'est-ce que le lecteur va voir en premier? Qu'est-ce que je lui montre de ce personnage? Donc ça, j'ai pas mal redéplacé un peu à la fin. Après, bon, il y a des choses qui globalement quand même sont restées comme ça, mais je crois que ouais, il y a des trucs que j'ai dû déplacer quand même en me disant oui, ça, il faut pas qu'on le voit tout de suite. Mais c'est difficile à, parce que j'ai pas vraiment noté tout ça. Et encore une fois, c'est des moments. De concentration, laisser un petit peu reposer le truc pour y voir plus clair après, où ça saute aux yeux, en fait. Et le gros problème de la fin, quoi, qui est toujours importante pour moi, et donc où là, il faut une attention vraiment supplémentaire pour essayer de voir comment ça va ressortir, mais ouais.
Mais donc il y avait cette idée d'assemblage et de quelque chose de mobile tout au long du processus de création.
Ça c'est vrai que c'est sympa, hein, même dans une planche. Alors il y a des planches justement où on voit pourtant il se passe rien. Une scène de danse par exemple où j'ai redéplacé quand même les cases, pour que ce soit dans la sensation narrative un petit peu plus fluide que ce que j'avais prévu au départ. Mais c'est vrai que le découpage après c'est vraiment intéressant. Ça devient un jeu en fait. Et même justement tout ce potentiel narratif, ou alors même avec une phrase, un petit mot qui va changer, comment on arrive à apporter un éclairage supplémentaire sur ce qu'on veut dire, tout ce travail un peu de post-production, on pourrait dire, et vraiment très très fort, très très riche, ouais.
Vous évoquiez Kubrick. Des films sont cités dans cette bande dessinée. On a un moment où on est justement chez la cousine de Julia, Brigitte. Et il joue à se faire deviner des titres de films en les mimant. Est-ce que le cinéma est une source d'inspiration pour vous, d'une façon ou d'une autre, de façon diffuse ou plus précise?
Ouais, c'est ça. Tout est diffus. Moi, je trouve que ça fait une espèce de grosse bouillie mentale à la fin. Mais cinéma, ouais, beaucoup. Il y a un moment, vraiment, je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Après, c'est bizarre. Il y a des moments après où là, il n'y en a plus trop. Et puis, des fois, c'est littérature. Des fois, ça va être même de la musique, en fait, en soi, peut amener quelque chose aussi. Et même ouais, en cours de réalisation, des fois, et puis le hasard voilà, de tomber sur tel film ou de lire tel bouquin qui apporte un éclairage aussi, quelque chose qui résonne un petit peu avec ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, sur les films, bon voilà, oui, alors il y a
Romère.
Romère, ouais, ça, bah, il y a eu un moment où j'en ai vraiment vu pas mal. Après, il en a fait vraiment une tonne et du coup, je suis loin d'avoir tout vu, mais il y en a beaucoup qui m'attirent pas tellement. Mais il y en avait pas mal comme ça, oui, avec ce côté bah, relation sentimentale, petite discussion comme ça, un peu figée dans un espace. Et puis cette façon de raconter, en fait, c'est aussi l'identité, la personnalité des gens, comment chacun, avec leur personnalité différente, ceux qui sont plus un peu introvertis, d'autres plus extravertis, leur langage, c'était un peu cette façon de parler assez fausse aussi au départ quand on entre dans le film, hein, on se dit oula, bizarre quand même, et puis petit à petit on rentre dans ces jeux de prosodie là, donc ouais, tout ça me plaît beaucoup, et puis je trouve qu'il y a justement aussi, il va chercher dans des détails de situations assez étonnantes, justement ouais, c'est ce goût aussi du détail qui va faire de la situation une situation spécifique et dans laquelle on peut se connecter en fait grâce à ces détails aussi, j'aime bien ça, ouais.
Et côté bande dessinée, on vous a quitté à Boulet Bill et Gaston. Finalement, vous êtes dirigé dans une direction qui n'est pas exactement celle de, même s'il y a l'idée de scénettes et de récits qui est composé de ces différentes scénettes. Est-ce qu'il y a des autrices et des auteurs qui ont été particulièrement importants pour vous, que ce soit aujourd'hui avec des lectures récentes ou un moment où, en tout cas, où ça a été la découverte, peut-être au moment des arts déco, mais la découverte aussi de ce que pouvait être la bande dessinée que vous n'imaginiez pas forcément en ayant en tête vos lectures d'enfants et d'adolescents.
Ouais, bah alors quand même, c'est vrai que ça reste bon, puis j'en ai déjà parlé aussi, mais je trouve une espèce. Bon, j'aime bien cette formule, je trouve que ça parle pas mal, mais dans les bandes dessinées classiques, genre une page, un gag, mais finalement, ce qui se produit, voilà, il y a cette espèce d'effet secondaire qui fait que en fait, ça crée de l'épaisseur au personnage, quoi. Mais c'est pas forcément ce qui est voulu dès le départ, puisque d'ailleurs, ils gardent un peu le même âge en général. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi empiler des strips ou empiler des gags aussi. Voilà, pour donner de l'épaisseur de façon un petit peu indirecte, plutôt que de me contraindre à
C'est comme si on
raconter.
tournait autour des
Ouais.
personnages et du coup petit à petit on découvre qui il est. Bon là en l'occurrence
Ouais.
Vincent, mais comme si effectivement il y avait différents, comme si on observait une personne, ben, des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur, des fois par en dessous, des fois par au-dessus. Et donc au final, effectivement, l'accumulation fait que on les connaît et qu'ils ont de l'épaisseur.
Ouais. D'ailleurs, du coup, il fait peut-être encore moins de choses. Après, quelque part, mais on le connaît, on sait comment il pourrait réagir aussi. Donc, ouais. Et après, bon, bah oui, c'est aux arts déco pas mal. Bah, du coup, il y a aussi toutes ces rencontres avec d'autres gens, d'autres étudiants. Après, comment on va citer? Parce que c'est entre les trucs d'illustration. Alors, je sais pas, en illustration, il y a aussi, par exemple, Arthur Geisert, illustrateur jeunesse, mais qui fait de la gravure avec. Des choses aussi mises en couleur, je pense, je sais pas si c'est à la gouache ou à l'aquarelle, très très beau, très drôle, avec voilà, ce trait aussi qui pourrait être assez proche de celui-là. Édouard Gorée aussi, avec tout le travail de trame très très spécifique, puisque c'est pas la trame classique en hachure contre hachure, etc. C'est vraiment une trame qui raconte en fait les choses qui sont dessinées, exemple, un parquet, voilà, au lieu de faire une trame très très rigide, en fait, il va utiliser les traits pour raconter aussi le bois, quoi. Par exemple, juste sur ce plan graphique. Après, oui, sur les bandes dessinées, bon, il y a Chris Ware qui est quand même très important, même dans le ton, dans les mélanges aussi, un petit peu entre des choses humoristiques, des fois aussi très loin, très prenantes. Bon, après, ouais, il y avait Rupert Émulot.
Et peut-être qu'on peut dire un mot parce que je vois que le temps passe très vite et j'aimerais vous laisser la parole si vous voulez poser des questions à Mathieu. Mais vous évoquiez le fait qu'aux Arts Déco, notamment, ça a encouragé la pratique, enfin différentes pratiques. Et vous faites de la gravure, notamment, vous faites de la peinture encore aujourd'hui. Comment est-ce que ces différentes techniques pour vous se complètent ? Qu'est-ce que le fait de faire de la gravure vous apporte aussi en tant qu'auteur de bande dessinée ensuite ? Est-ce que c'est juste de rompre avec la monotonie aussi, d'être sur sa planche et avec le rotring, en tout cas d'être dans cette narration-là, et ça permet de rester dans une forme artistique mais de se décaler un petit peu. Mais comment est-ce que vous avez le sentiment finalement que ces différentes pratiques se complètent, et comment est-ce que vous aimeriez les développer ?
Ouais, pour moi, c'est plus des salles isolées. C'est-à-dire que ouais, la gravure, il va y avoir un truc un petit peu plus dans la matière. Là, j'aime bien mélanger. Bon, c'est de la gravure de la taille 12, donc il y a pas mal de possibilités, hein, espèce de entre le trait et puis des choses beaucoup plus matiérées, qui peut pour le coup plus communiquer avec une pratique d'image isolée en peinture à la gouache ou des choses comme ça. Je trouverais ça trop, en fait, c'est plutôt que peut-être que ça peut servir après pour la bande dessinée, mais la bande dessinée, en fait, là, le noir et blanc, des choses un peu minimales, c'est parce que c'est vraiment l'aspect narratif qui me plaît, qui m'importe le plus, donc dans lequel je veux vraiment consacrer le plus de temps. Ce serait impensable de mettre de la couleur pour l'instant, ou alors il faudrait qu'il y ait vraiment un enjeu aussi narratif. Mais après tout ça, c'est vrai que il y a des gens qui font, bon, je sais pas comment ils font, mais ça me paraît très 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 compliqué, ouais.
Et le dessin, vous le pratiquez aussi en direct, vous faites des concerts dessinés. On parlait de la posture des personnages, de comment est-ce que par le corps on dit un petit peu les émotions des personnages. Est-ce que ça, par contre, le dessin en direct, le fait qu'il n'y ait pas de repentir, le fait qu'on ait à trouver spontanément, sur le moment, quelque chose à dessiner, est-ce que ça, vous avez l'impression que ça a un impact sur votre façon de créer, ou bien est-ce que c'est juste le plaisir du lâcher prise et de se dire justement, on ne peut pas refaire 20 fois sur l'ordinateur en changeant juste la position du personnage ou de l'enveloppe par terre. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette pratique-là, du dessin en direct ?
Alors, pour le coup, en fait, on a fait ça à deux. Moi, comme à chaque fois, c'était un petit peu à l'arrache, on faisait tout. L'idée, c'était de raconter des histoires et pas de faire de l'impro. Donc, c'est autrement que les images arrivent, que l'histoire se déploie. Il y a, au moment où on choisit, donc on choisit où est-ce qu'on commence pour garder un petit peu le lecteur en haleine, etc. Enfin, le spectateur. Et pour le coup, comme on manquait à chaque fois de temps, après, c'est mon pote qui dessine la plupart du temps. Alors, il m'est arrivé de dessiner sur d'autres concerts, mais sinon, du coup, je joue un peu de musique, donc on fait comme ça. Quand je le fais, on est à deux, donc c'est sympa. Et après, ouais, ce côté plutôt, effectivement, tant pis si c'est raté. Comme c'est rond, ça reprend, on est sur du papier avec une caméra au-dessus. Donc, il y a ce côté aussi très... on joue aussi sur ce truc avec peu de moyens. Un dessin qui surgit comme ça, on voit la main le faire. Donc même si c'est même un dessin un peu raté, en fait c'est pas très grave. Je pense que ça fonctionne toujours. Bon, voilà, sauf si devient vraiment illisible, mais ouais, ça c'est assez agréable de changer. Puis là on est dans autre chose avec beaucoup de stress au début, puis on arrive, ça se passe maintenant. Toute une tension comme ça sur le temps d'une heure de concert et puis. Et puis voilà, ensuite c'est fini. En fait, on veut plus reconsulter, les spectateurs ne veulent plus reconsulter le livre non plus. Enfin, c'est autre chose, ouais.
Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Mathieu ? Que ce soit sur ce livre-là ou sur le parcours de manière plus générale ou sur la technique ? Ouais ?
En quoi, pardon ?
Comme le dessin, c'est votre métier, est-ce que vous avez un hobby à côté ?
Pas de dessin, ouais, du coup. Mais oui, c'est mon métier. Du coup, je fais. Après, c'est mélangé entre. Je donne aussi des cours. Donc, il y a la bande dessinée. Il y a toute cette course un peu pour trouver le temps. Après, il y a des fois des commandes plus de. Soit d'images, soit. Je sais pas, un strip pour quelque chose. Mais du coup non, après pour le coup, ouais, le temps pour le dessin vraiment un peu spontané comme ça, pas tellement en fait, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup le temps. Donc après, ça revient. Par contre, voilà, c'est dans là, si j'ai envie de faire reprendre un projet de bande dessinée, je le considérerais un petit peu comme ça, parce que c'est voilà, comment déployer une histoire, comment dessiner, et puis ouais, des temps de recherche un petit peu comme ça. Mais voilà, en me disant, je voudrais en faire quelque chose quand même.
Et donc vous avez déjà quelque chose en tête où vous vous
Oui,
dites...
mais j'ai pas le temps. Donc non, pour l'instant, j'ai pas le temps, donc je peux pas dire vraiment, parce que tant que j'ai pas commencé, vraiment, autant en fait, y a rien du tout. Mais j'ai un peu, ouais, j'ai des idées. Donc bon, après, on verra. Là, je finis aussi un livre jeunesse, du coup, avec ma sœur. Donc ça sera peut-être pour le printemps normalement. Et voilà. Puis il y a Hors-jeu qui va ressortir aussi avec une autre couverture. Et voilà.
Elle était très bien la couverture.
Ouais, mais on voulait changer un peu. Puis j'avais une idée aussi à l'époque. Donc voilà, on va repartir sur une autre piste.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions. Merci beaucoup.
Ben
Merci
merci.
infiniment, Mathieu.
Merci à
Bravo
vous.
encore pour ce fauve révélation.
Ben merci.
Et merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne soirée.